devant toi, Seigneur. Je répands mon âme devant toi, Seigneur. Je répands mon âme, ô mon Dieu. Je suis à toi, je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité.
Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, salut, grâce et paix chez vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonne année aux uns et aux autres, en son nom. C'est l'émission En sa présence, proposée par le Centre biblique, sous la présentation de votre serviteur, l'indigne Danny Wechai. Nous méditons dans le livre des psaumes, au chapitre 31, au verset 15, dans la version Darby, ou au verset 16, selon la version Segon. Mettant son en ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. Selon la version Segon, mes destinées sont dans ta main, arrache-moi de la main de mes persécuteurs. De ce verset, la pensée qui ressort fort et qui s'impose à mon esprit, au point même d'être le sujet du jour, c'est mes temps et mes destinées. Mes temps et mes destinées. En ce début d'année, où beaucoup restent encore plongés dans l'ambiance de la fête du 1er janvier, il est tout à fait opportun et même légitime de parler du temps. Le roi David, qui a écrit ce psaume en parlant des temps, voulait dire les jours de notre vie, y compris bien sûr leur durée ou leur longueur, leur subdivision chronologique et les circonstances qui les émaillent. Et quand il dit « en ta main », il discerne en Dieu l'origine et le centre de son existence. Et dans ce sens-là, David est quelqu'un qui serait prêt, s'il vivait maintenant sur la terre, à dire à Dieu « mes jours en cette année débutante sont dans ta main ». Alors qu'en est-il de toi, cher ami auditeur ? Penses-tu que c'est par pur hasard que tu es arrivé à cette année, ou que c'est par la vertu de la médecine, grâce au respect de règles d'hygiène, ou encore à la pratique du sport que tu as atteint l'âge que tu as? Non, c'est grâce à Dieu. C'est la raison pour laquelle David, dans ce chapitre, opère un choix vital vis-à-vis de Dieu. Au verset 5... il dit, et je pense que ça c'est vraiment le secret de sa pensée, je lis ceci. Entre tes mains, je remets mon esprit. Ou en ta main, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, ô Éternel, Dieu de vérité. Remettre son esprit entre les mains de Dieu, c'est décider d'entrer dans une relation avec Dieu qui met place sous sa dépendance. C'est laisser à Dieu le soin de conduire les destinées de ma vie. Et on ne peut pas le faire autrement qu'en acceptant le seul homme qui a vécu sur cette terre avec le temps des dieux et dans une entière dépendance à lui. C'est son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. En entrant dans ce monde, il a dit à son Père, « Tu m'as formé un corps, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » On peut voir cela dans Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Et on l'entend dire à la fin de sa vie, à la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Si lui est notre Seigneur et Sauveur, il sera aussi notre Maître et notre modèle. Ce Dieu d'éternité qui fait toutes choses belles en son temps, selon le roi Salomon, et qui change les temps et les circonstances selon Daniel, est le maître absolu du temps, de mon temps et de mon destin. Cette année a bel et bien commencé, certes, mais qui sait comment elle va se poursuivre ou qu'est-ce que les jours à venir nous réservent? Écoutons ce que le roi Salomon dit dans Proverbes au chapitre 27 au verset 1. « Ne te vante pas du lendemain ou ne te glorifie pas du jour de demain, selon Darby, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. » Notez que cette mise en garde sort de la bouche d'un chevronné de la vie et de l'existence humaine. Dieu n'a donné à aucun homme, qui qu'il soit, quelle que soit son intelligence ou sa sagesse ou sa clairvoyance, quelles que soient ses facultés des prémonitions, d'avoir la maîtrise du temps à venir. Vous pouvez faire de bonnes projections, des plans réalistes et réalisables, mais sachez que le jour de demain ne vous appartient pas. Il peut y avoir des contretemps fâcheux et des surprises décevantes. Jacques, le frère du Seigneur Jésus, abonde dans le même ordre d'idées avec ses pensées que nous trouvons dans son épître au chapitre 4, du verset 13 jusqu'au verset 17. Je lis ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Quand nous annoncions notre mariage au public, ma fiancée et moi, nous avions mis dans la carte du faire-part l'expression suivante. Dieu voulant, nous nous marierons en telle date. Si Dieu le veut, cette expression n'est pas pour le croyant synonyme de doute, mais la traduction du désir de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est l'acceptation de la souveraineté de Dieu. Nous devons accepter que Dieu est souverain. Dieu est souverain, cela veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Il y a un exemple dans 1 Rois, chapitre 22, au verset 49, concernant Josaphat, un roi de Juda. Il est dit de lui ceci, « Josaphat construisit des navires pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais on n'y alla pas parce que les navires se brisèrent à Étion-Guéber. » Les navires se brisèrent à Étion-Guéber. Chers amis auditeurs, nous pouvons avoir de bons projets, mais encore une fois, je le répète, Dieu peut briser ses projets, car Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Ne dit-on pas couramment, l'homme propose, mais Dieu dispose. Oh, l'orgueil de l'homme! Jacques dit, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Souvenez-vous du fameux bateau appelé le Titanic en 1912. Ceux qui l'avaient construit étaient tellement fiers de leur prouesse, tellement satisfaits de ce gigantesque ouvrage qu'ils l'avaient déclaré insurmersible. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Une fois mis à l'eau, buté contre un iceberg, l'énorme navire coula avec autant et autant de personnes à bord. Si Dieu le veut, nous pouvons même être sûrs de la volonté de Dieu, qui du reste est bonne, agréable et parfaite, mais encore faut-il attendre qu'il décide du temps où il va accomplir sa volonté. Le « si Dieu le veut » nous engage alors à patienter. Oui, je suis malade, je veux guérir, Dieu le veut. Aussi certainement. Mais quand me guérira-t-il? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait toutes choses belles en son temps. Selon Ecclésiaste 3, au verset 11. Lazare est malade. Le Seigneur Jésus l'apprend. Mais il ne se précipite pas pour aller le guérir. Voyez-vous? Parce qu'il savait que cette maladie n'était pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Mais c'est 4 jours plus tard, après la mort de Lazare, qu'il va s'y rendre pour le ressusciter, mais le ressusciter, bien entendu, pour faire éclater la gloire de Dieu. Celui qui dit « si Dieu le veut », celui-là cherche certainement la gloire de Dieu et attendra le temps de Dieu. Jacques conclut au verset 17, ce que je m'en vais lire. « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Il y a le bien qu'on sait faire, au sens général du mot, et quand on ne le fait pas, on pêche. Par exemple, pardonner, c'est faire le bien. Celui donc qui garde rancune, pêche. Secourir les pauvres, c'est faire le bien. L'avare, pêche. Mais le bien dont parle Jacques dans ce contexte ici, c'est spécifiquement le fait de dire « si Dieu le veut ». Le fait de montrer que dans tout ce qu'on projette, dans tout ce qu'on élabore comme plan, dans tout ce qu'on a conçu comme dessein dans nos cœurs, même les desseins les plus chéris de nos cœurs, même dans tout cela, nous restons entièrement dépendants de Dieu. Job, face à l'épreuve qui l'a frappé dans sa vie, disait à Dieu, « Les plans chéris de mon cœur sont frustrés. » Et c'est vrai que quand on a des projets, on voudrait que ces choses s'accomplissent. Et quand cela ne s'accomplit pas, eh bien, le cœur a du chagrin. Parce que dans Proverbe, il nous est dit que l'attente différée rend le cœur malade. Mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela cette année. Si Dieu le veut, la semaine prochaine ou le mois prochain, nous irons ici ou là. Voilà la façon dont un enfant de Dieu parle. Voilà le langage du croyant authentique. Si tu ne t'exprimes pas ainsi, cher ami auditeur, tu pêches. Et est-ce que cette année, tu as commencé à parler de cette façon-là? Si Dieu le veut, mes temps sont en ta main, dit le roi David. David comprend que le temps de l'homme sur la terre est court et bref. En conséquence, il demande à Dieu de le délivrer de ses ennemis. Mais qui sont ses ennemis? Au sens propre, on peut penser à ceux qui en voulaient à sa vie. Je prends, pour ma part ici, les ennemis au sens figuré de tout ce qui nous empêche de bien gérer le temps pour la gloire de Dieu. Moïse, l'homme de Dieu, longtemps avant David, adressait à Dieu cette prière qu'on trouve dans le psaume 90 au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous ne devrions pas vivre comme si, sur cette terre, nous avions une éternité d'existence. D'où le besoin de gérer le temps à bon escient, en faisant ce qui a de la valeur pour Dieu. Et pour cela, nous devons éviter des choses telles que, premièrement, la chronophagie, c'est-à-dire tout ce qui mange le temps. Cela peut être des individus, ou des outils, ou des activités qui me détournent de mes tâches essentielles. Elles sont là des choses chronophages. Il y a aussi la procrastination, c'est-à-dire la tendance à renvoyer à plus tard ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il y a des gens parmi nous qui vous diront chaque fois qu'on leur demande quelque chose à faire, « Ah oui, demain, demain !» Il s'agit là de la procrastination. Il y a aussi la lifolie chronique. C'est quoi la lifolie chronique? Eh bien, c'est la difficulté à rester concentré et à terminer une tâche avant de passer à une autre. C'est ici qu'on trouve des aboutiques, des gens qu'on appelle aboutiques. C'est des gens qui commencent quelque chose et s'arrêtent à mi-chemin. C'est des gens qui n'iront jamais jamais alors jamais au bout de ce qu'ils entreprennent. Donc, il y a chez nous, les hommes, différentes attitudes par rapport à la gestion du temps. Dieu nous donne à ce sujet un très bon exemple, je dirais même un très bon conseil, dans le psaume 32 au verset 9. Déjà, au verset 8, il dit « Je te conseillerai, j'aurai constamment l'œil sur toi et je t'indiquerai le chemin par où tu vas marcher. » Et le verset 9 dit ceci « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » Je laisse la suite du verset. Le cheval ou le mulet, voilà deux animaux auxquels Dieu ne voudrait pas que nous ressemblions. Le cheval, eh bien, c'est un animal qui brille par la précipitation. Et parfois, une précipitation injustifiée. Nous vivons un temps où la culture est de plus en plus celle de l'instantané. On veut des choses tout de suite et on se précipite comme le cheval. Ce n'est pas ainsi qu'on doit agir avec Dieu. Ce n'est pas ainsi qu'on doit se comporter lorsqu'on marche avec Dieu. Le mulet n'est pas non plus intéressant. Hein? Il est caractérisé par la lenteur, l'étourdissement, les atermoiements. Le mulet, lui, il connaît souvent du retardement dans sa façon de fonctionner. Il verse dans des tergiversations et finalement, il connaît des ratés. Et il y a des gens qui, dans leur vie, au lieu de tendre avec effort vers le but de Dieu, sombrent dans des ratés. Dieu nous invite à remettre notre esprit en sa main, à rechercher sa volonté et à bien gérer le temps qu'il nous donne en discernant les choses essentielles à faire pour sa gloire. Ainsi, notre destinée sera meilleure. Mes destinées sont « dans ta main », dit le psalmiste. Une fois, je me souviens de m'être retrouvé avec mon épouse dans un poste frontalier entre le Congo, c'est-à-dire la RDC, et l'Ouganda, c'était à Kasindi, pour quelques formalités douanières. Et quand le chef de poste a vu ma femme, il s'exclama « Messieurs, vous avez de la chance, hein? Où est-ce que vous l'avez trouvé ?» Et il parlait de mon épouse. « Où est-ce que vous l'avez trouvé ? J'ai passé toute ma vie à chercher une femme de ce genre et je n'en ai trouvé aucune. » Alors, je lui ai répondu en disant « Il y a quelqu'un dans les cieux, messieurs, qui lui est l'artisan de ma destinée. Ce n'est pas une question de chance. » Et pourtant, savez-vous que j'ai dû attendre longtemps, mais alors longtemps avant de me marier. C'était jusqu'à 43 ans. Que n'avais-je pas entendu en ce moment-là? Que n'avais-je pas subi comme pression? Et si j'étais un cheval, je me serais précipité vers une sœur, vers une fille que j'aurais peut-être maladroitement prise en mariage. Mes destinées sont en ta main. La manière dont quelqu'un utilise et gère le temps que Dieu lui a donné, a une conséquence directe sur sa destinée et son avenir. Dans Ecclésiaste, au chapitre 11, versets 1 et 2, il nous est dit ceci, « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Ce que nous faisons aujourd'hui constitue une semence qui portera ses fruits demain. Ce qu'un homme aura semé, cela même il le récoltera, dit l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 6. On ne se moque pas des dieux, chers amis auditeurs. Ce qu'un homme aura semé, cela même il le récoltera. Vous connaissez peut-être Alfred Nobel, je vais vous parler de lui. Alfred Nobel, c'est un chimiste suédois qui a inventé la dynamite. Un jour, il lut dans un journal une page nécrologique consacrée à sa mort. Quelqu'un avait écrit un commentaire très critique sur lui du fait qu'il avait inventé quelque chose qui servait à la fabrication des armes à destruction massive. Ainsi, le défunt Alfred Nobel, en tout cas pour ce commentateur, n'était qu'un sinistre personnage, un homme de triste mémoire pour l'humanité. Mais ce n'était pas Alfred Nobel qui était décédé en ce moment-là, c'était plutôt son frère qui lui portait également le même nom, c'est-à-dire Nobel. C'est ainsi qu'Alfred Nobel regretta son passé et l'invention même de la dynamite. Parce qu'il se disait, mais moi je n'ai pas inventé la dynamite pour que ce soit des bombes qui tuent des humains. Et il décida par la suite de créer un prix qui était destiné à récompenser des hommes de distinction dans différents domaines de la science et peut-être aussi de la vie. C'est ainsi qu'on parle de prix Nobel. Aujourd'hui, on pourrait dire que Alfred Nobel est connu sous cette image noble d'un humaniste. Il rompit avec son passé. Et je crois que chacun de nous peut rompre aussi avec son passé s'il découvre qu'il n'a pas vécu d'une manière qui honore Dieu. Il n'a pas géré le temps pour la gloire de Dieu. Il a consacré son temps pour des vanités de ce monde. En contraste avec l'exemple d'Alfred Nobel, il y a un autre exemple. Et c'est celui de Mikhaïl Kalachnikov. C'est un Russe qui a inventé, lui, l'arme qu'on appelle la Kalachnikov, qui est très répandue. Il semble que c'est l'arme la plus populaire au monde actuellement. Ce qu'on appelle la K-47. C'est autour des années 47 qu'il l'a inventé. Kalachnikov venait de décéder en décembre dernier. J'ai même suivi le déroulement de ses funérailles. Juste peu de temps après Nelson Mandela. Mais qu'est-ce que les gens retiennent de lui? Ben c'est l'image d'un homme qui voulait faire du mal aux autres, parce que celui qui fabrique une arme, il est dans son esprit meurtrier, même si dans le fait, il l'a pas fait, mais en tout cas, dans sa pensée, il l'est. Et il semble qu'il a dit, moi je n'ai pas inventé cette arme pour tuer des humains, je voulais seulement défendre mon pays contre ses agresseurs. Mais les agresseurs de son pays sont des humains. Aujourd'hui, c'est devenu une arme incontrôlable. On la trouve partout. Alors le nom de Kalachnikov est lié à la barbarie, est lié à la violence, est lié au meurtre. Voilà ce que nous pouvons récolter de ce que nous sémons. Cher ami auditeur, Dieu t'a donné beaucoup de temps. Jusqu'ici, tu as joui de la grâce des dieux. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu peux aujourd'hui décider de consacrer désormais ton temps à la gloire des dieux. Cette année nouvelle est une occasion que Dieu te donne pour que tu puisses réparer les torts, les fautes passées. Peut-être as-tu vécu dans l'insouciance, dans le péché, as-tu perdu énormément de temps. Le Seigneur est un Dieu des grâces. Il t'invite aujourd'hui à t'incliner devant lui et à lui dire, aujourd'hui, Dieu Père, entre tes mains, je remets ma vie, je remets mon esprit. Et je vais vivre désormais pour ta gloire, dans le temps que tu me donnes, selon ta grâce. Nous allons nous incliner dans la prière. Notre Dieu, toi qui es le Dieu d'éternité dont les jours ne finissent pas, tu nous as créés à ton image et tu nous laisses sur cette terre pour que nous puissions refléter cette image. Tu nous as créés pour ta gloire et tu veux que nous puissions, durant ce temps qui nous reste, parce que le temps nous reste, nous ne l'avons pas toujours, nous en avons déjà consommé une bonne partie, il nous reste peu de temps, car nous sommes forains, étrangers sur cette terre, que tu nous accordes la grâce de pouvoir désormais vivre pour toi, rechercher ta volonté et rechercher ta gloire. Enseigne-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ô qu'il te plaise, notre Dieu, de pouvoir incliner les cœurs des uns et des autres qui m'ont suivi à la sagesse. Et la sagesse, par excellence, c'est ton fils Jésus-Christ, qui lui avait une marche bien réglée, qui allait là où il fallait, qui agissait quand il fallait et qui faisait tout comme il fallait. Qu'il soit notre modèle, qu'il soit notre sauveur, qu'il soit notre maître. Ainsi nous te prions, en son nom. Amen. Avez-vous besoin de contact? Eh bien, vous pouvez appeler votre serviteur, Danny Wechai.
Petit train vient, tout le monde s'apprête à y monter. Sa cloche résonne, personne ne sait où il va l'emmener. Il siffle, les portes sont fermées. En route pour notre destinée. Où vas-tu, petit train, le train voyageur? La première station qui s'appelle la réflexion. Yeah, yeah. Le contrôleur dit, as-tu choisi la bonne direction? As-tu pris ta carte d'identité? La frontière, tu vas y arriver. C'est ici, tu pourras la traverser. La frontière, tu vas y arriver. C'est tout si tu pourras la traverser. Parti pour le ciel avec des habits blancs. Cité éternelle en avant. Mort sur une croix. C'est la vie éternelle ou la grande séparation. Il siffle, nous entrons dans l'au-delà. Oui, vers le malheur ou le bonheur. Pour l'éternité, en route voyageur. sûr.